Actes des Apôtres, au chapitre 15. On va lire à la toute fin du chapitre, à partir du verset 36. Il est écrit, « Quelques jours après, Paul dit à Barnabé, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabé était décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il passait par la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Peut-être ce choix de texte vous étonne pour un dimanche d'évocation, un dimanche où on s'attend peut-être à être motivé pour répondre à l'appel du Seigneur. Est-ce que je peux prendre un micro comme ça pour être plus libre ? Merci Badewa. Donc oui, peut-être que ce texte vous étonne pour un dimanche d'évocation. C'est un récit triste. C'est un des récits qui me rend le plus triste dans la Bible, parce que on y voit une dispute entre deux chrétiens, des chrétiens qui sont admirables, qui ont fait des belles choses, dont le livre des Actes des Apôtres nous raconte vraiment de belles choses qu'ils ont accomplies. Mais là, eh bien, conflit, séparation.
Merci. Conflit, séparation et tristesse pour le lecteur. Peut-être avant de parler de ce qui se passe, un mot sur le contexte. Ce moment se passe juste après l'arrivée à Antioche. Hein, on voit qu'on est dans une succession d'événements. Paul et Barnabé ont été envoyés par l'église de Jérusalem pour annoncer la décision qui a été prise dans cette église. Il y a eu un concile. L'église s'est regroupée pour prendre une décision. Il y avait tout un débat. À Antioche, il y avait beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas juifs d'origine. Et c'est bon, non ? Vous m'entendez ? Bon, voilà. Il y avait beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas juifs d'origine. Et il y avait des questions qui se posaient. Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent juifs ? Est-ce qu'il faut qu'ils se fassent circoncire ? Plusieurs le maintenaient. Jésus était venu pour les Juifs, tous les chrétiens jusqu'ici étaient juifs et circoncis, et ils maintenaient que ces nouveaux chrétiens à Antioche devaient l'être aussi. Mais Paul et Barnabé étaient convaincus que non. Il y a eu à Jérusalem cette discussion qui a tranché. Les chrétiens d'origine païenne n'ont pas besoin de suivre la loi juive, et en particulier de se faire circoncire. Et donc, ils ont envoyé Paul et Barnabé pour annoncer cette nouvelle. Et voilà, Paul et Barnabé viennent de terminer leur mission, celle qui leur a été confiée, et c'est un peu une étape qui se termine. La question de l'intégration des Grecs, des païens dans l'Église, vient d'être tranchée. Que faire à présent ? Et Paul a l'idée de retourner voir les églises fondées et voir comment elles avancent. Et ça peut sembler logique. Le champ missionnaire des païens, le champ missionnaire des Grecs est ouvert, alors on y retourne, on fait avancer les choses. Barnabé n'est pas contre. Et ils discutent ensuite de qui pour les accompagner. Parce qu'un voyage comme ça, c'est une occasion de prendre quelqu'un pour le former. Le former au service, le former à l'évangélisation, à l'implantation, etc. Et on arrive là à la raison de la dispute, la raison du conflit. Cette raison, elle s'appelle Jean-Marc. Jean, c'est son nom juif et on le surnomme Marc. Marc était parti déjà avec Paul et Barnabé dans leur voyage missionnaire, leur premier voyage missionnaire. C'est un cousin de Barnabé et on le voit un peu plus tôt, c'est un chrétien qui est impliqué à l'église de Jérusalem. Donc, ils ont voulu l'emmener un peu plus loin, lui donner un peu plus de responsabilité, et il a commencé le voyage avec eux, mais à la moitié du voyage, il les a laissés tomber et il est rentré à Jérusalem. Peut-être que le voyage était trop dur, que trop fatigant, peut-être que c'est la pression. Enfin, on n'a pas de détails. Le livre des Actes des Apôtres est très sobre sur le sujet, mais il les a abandonnés. Et Paul pense qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il les a laissés tomber une fois. Le reprendre, c'est prendre le risque qu'il les laisse tomber à nouveau. Il ne veut pas le reprendre. Barnabé, lui, aimerait lui redonner une chance. Il croit en lui. Il aimerait le prendre à nouveau pour lui redonner une chance. Et là, c'est impossible de se mettre d'accord. Ça aboutit à une séparation. Et les deux partent dans des directions différentes. En fait, les deux vont prendre le même circuit. Barnabé, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, il commence par Chypre, et on pense pour remonter, tandis que Paul, lui, il prend le continent et il fait le même trajet que celui qu'ils ont fait sur le voyage missionnaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et il part avec le soutien de l'église d'Antioche. Ainsi, on a deux équipes missionnaires au lieu d'une, finalement. Ça finit plutôt bien. On a deux équipes au lieu d'une. Et puis, nous qui avons la Bible en entier, nous savons que Marc deviendra un collaborateur apprécié de Paul. Quand tout le monde le laisse tomber, il ne reste que Marc à côté de lui. On le retrouve à la fin de sa vie, dans Philémon, dans 2 Timothée. Il y a une forme de réconciliation. C'est beau. C'est un mal pour un bien. J'en suis pas si sûr, je sais pas. Je crois que c'est vraiment un mal ce qui s'est passé. Il y a cette petite phrase, ou plutôt ces quatre mots dans le texte, le conflit fut tel. La raison pour laquelle ils sont disputés n'est pas restée cette raison. Ça a escaladé, la sauce a monté. Ils se sont certainement dit autre chose. Il y a de la matière. Il y a la possibilité de spiritualiser les choses, de citer Jésus. Marc n'a pas su être fidèle dans les petites choses. On ne peut pas faire appel à lui à nouveau. Barnabé a peut-être répondu à Paul qu'il était gonflé parce que Barnabé, c'est celui qui a donné une deuxième chance à Paul. Quand Paul, le persécuteur de chrétiens, s'est converti, tout le monde avait peur de lui. Personne ne voulait aller le voir. C'est Barnabé qui y est allé et qui l'a amené avec lui et qui l'a présenté aux autres. Paul a eu une deuxième chance. Peut-être que Paul lui a dit que Marc, c'était son cousin et qu'il n'était pas objectif. Peut-être que Barnabé a rappelé à Paul qu'il avait persécuté les chrétiens et qu'il en avait tué. Peut-être que Paul a parlé à Barnabé de ce qui s'est passé un peu plus tôt à Jérusalem. Paul en parle dans Galates. Il y a un moment où tout le monde a lâché Paul, qui avait invité des chrétiens non-juifs. Et tout le monde est allé manger avec les juifs pour ne pas se mélanger, pour ne pas choquer. Et Paul est resté tout seul et il a dû reprendre tout le monde. Il a repris Pierre, mais Barnabé aussi l'a laissé tomber à ce moment-là. Lui avec qui il a évangélisé ces chrétiens. Sans doute, il y avait d'autres dossiers, d'autres trucs qui ont été balancés. Peut-être qu'ils se sont posé la question de qui c'est le vrai leader entre eux. Est-ce que c'est Barnabé, le chrétien le plus ancien, celui qui a formé Paul? Ou est-ce que c'est Paul qui prend le leadership avec tous les dons que Dieu lui a donnés, en particulier son zèle qu'il met désormais au service de l'Évangile? La conséquence de cette dispute, c'est la fin d'une collaboration, la fin d'une relation. La relation, si Paul s'est réconcilié avec Marc, on ne sait pas ce qu'il a fait avec Barnabé. On ne sait pas ce qu'elle est devenue après ce récit triste d'Acte 15. Mon avis, c'est que cette histoire, ça reste une bien triste histoire dont Dieu a pu se servir pour faire avancer son Église, mais un mal quand même. Une chose que j'aimerais noter, peut-être une petite parenthèse ici, c'est que la Bible n'a pas peur de parler du conflit, y compris quand le conflit n'est pas très glorieux. Elle ne cache pas qu'il y a des conflits entre chrétiens, ni même entre leaders, des leaders qui sont par ailleurs tellement doués. Et pour écrire ce texte, Luc, l'auteur, a fait un travail d'analyse. Il est revenu à l'objet du conflit. Et l'objet est décrit de telle façon que, à mon avis, les deux, Barnabé comme Paul, sont capables d'approuver la description qui en est faite. Et quand on a juste cette description, elle semble bien minime. Ce n'est pas possible de s'asseoir pour discuter calmement de ça ? Quitte à se séparer, mais à le faire calmement. Mais la Bible ne cache pas que de ce point de départ, dont on aurait pu discuter calmement, est né un défi destructeur. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de l'Église. Et cet épisode n'empêche pas Dieu de déployer son plan. Même quand il y a des conflits, même quand ceux qu'on a formés nous dépassent et nous quittent, même quand des relations ne sont pas restaurées, ça n'empêche pas le plan de Dieu d'avancer. Et de fait, on peut continuer à lire, chapitre 16, 17, 18, etc. L'Église s'est développée, la parole de Dieu a été annoncée, et comme c'est dit au premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, elle est allée jusqu'au bout du monde, jusqu'à Rome, la capitale du monde. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse parce que je reviens à notre sujet du dimanche des vocations, parce que je trouve que ce texte montre de façon forte qu'il y a une volonté de formation. Je l'ai dit, le désaccord est mince. Le point sur lequel ils ne sont pas d'accord, c'est qui prendre pour être formé. Jean-Marc a failli par le passé, il n'est pas digne de confiance pour Paul, Barnabé veut lui donner une nouvelle chance, voilà, c'est tout. Ils sont d'accord sur tout le reste. Ils sont d'accord sur faire un nouveau voyage missionnaire, les églises qu'ils ont implantées ont besoin de suivi, il faut y aller. Ils sont d'accord sur le fait qu'il faut prendre quelqu'un pour le former. Ils sont d'accord sur le fait que l'appel à former tous ces chrétiens qu'on appelle les Grecs d'origine païenne, cet appel à aller les évangéliser, il reste. Le désaccord est mince et la volonté de formation est quelque chose qui les unit. Barnabé a formé. La première fois qu'il apparaît dans le livre des Actes, pour nous qui sommes des lecteurs un peu éloignés, on nous explique que son nom veut dire fils d'encouragement. Barnabé, fils d'encouragement. C'est quelqu'un qui encourage et qui forme. Il a formé Paul, qui à son tour est devenu formateur, en prenant Silas, puis Luc, tout de suite après, puis beaucoup de monde encore. Barnabé a formé Marc, qui est devenu collaborateur de Paul, puis de Pierre, et qui est évangéliste. C'est l'évangile dont Eliot nous a lu des extraits. Barnabé a formé deux serviteurs finalement plus connus que lui. Paul, un évangéliste, ils sont tous les deux plus largement connus que Barnabé. Que penser de cela ? La formation, c'est donner sa place à d'autres. C'est un acte généreux. On ne forme pas pour soi, on ne forme pas pour se faire des disciples à soi-même, mais des disciples du Christ. Les personnes qu'on prend avec nous, qu'on forme, ce n'est pas pour qu'elles nous appartiennent, ce n'est pas pour qu'elles nous suivent, c'est pour qu'elles suivent notre Maître, Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a là quelque chose dont nous aussi nous pouvons nous inspirer. Cette volonté de former. Vous le savez, dans cette église, on veut se donner comme mot d'ordre d'être des disciples qui font des disciples. Former. Former de nouveaux disciples. L'objectif, ce n'est pas de trouver ma place dans l'église. L'objectif, ce n'est pas de découvrir mes dons pour trouver là où je vais servir et m'y installer. On étudie ensemble dans les groupes de maison le livre de l'Ecclésiaste. On n'est pas là pour se faire une situation, pour amagasiner, pour se faire un coin tranquille. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui sera demain ? Qu'est-ce qui va rester après ? Le Seigneur nous demande de former. J'y repense souvent. Lorsque j'ai fait mes études d'informatique, je ne sais pas pourquoi notre administrateur réseau m'aimait bien. Et on a discuté et un jour, il s'est confié un peu à moi. Et il me disait, c'est difficile quand tu es un administrateur réseau, si tu as bien fait ton travail, il n'y a pas de problème, donc tu fais rien et les gens pensent que tu ne sers à rien. Et il m'a dit qu'il avait voulu former quelqu'un pour être administrateur réseau. Voilà, donc il avait pris quelqu'un et je me souviens toujours de la façon dont il a formulé. Au début, il ne savait rien faire, c'est lui qui allait chercher les bières. Et puis je l'ai formé, il a su faire de plus en plus de choses et maintenant c'est moi qui vais chercher les bières. C'est ça le but de la formation. Aller chercher les bières. Le but de la formation, c'est qu'on n'ait plus besoin de moi parce que j'ai formé quelqu'un d'autre qui sait faire ce que je fais. Au risque de perdre ce que j'ai. Au risque de perdre la place que j'ai. Mais alors, me revient en tête ce qu'a dit Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et du royaume, il la gagnera. Les plans de Dieu dépassent les nôtres. Dans le conflit que nous avons lu, qui avait raison ? Barnabé a fait de Marc quelqu'un de bien, un serviteur bien. Paul a fait de Silas quelqu'un de bien et de plein d'autres. Aurait-il été aussi productif s'il était resté avec son premier mentor ? Fallait-il qu'il se sépare ? Peut-être, mais pas comme ça. Cela aurait-il donné les mêmes résultats ? Est-ce que Marc se serait laissé former s'il n'avait pas été l'objet d'un conflit ? Ou est-ce qu'il serait resté quelqu'un sur qui on ne peut pas se fier ? Est-ce que ça a été pour lui une prise de conscience ? Est-ce que entre Paul et Barnabé, il y a eu une espèce de concurrence qui s'est instaurée ? Et la concurrence, parfois, ça amène de l'émulation qui produit des choses bien. Qui sait ? Les plans de Dieu sont au-dessus des nôtres. Je repense, dans le même livre des Actes des Apôtres, il a fallu une persécution pour que les disciples quittent Jérusalem et aillent ailleurs. Ils étaient bien entre eux. Je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu que les chrétiens se fassent massacrer, que Étienne se fasse lapider, mais il s'en est servi. C'est comme ça qu'ils sont partis et qu'ils sont allés évangéliser ailleurs. On ne sait pas tout. On ne comprend pas tout. Mais ce qui nous est demandé, il faut le faire le mieux. Et nous pouvons compter sur la grâce. Sur la grâce du Seigneur qui, malgré nos erreurs, malgré nos bêtises, fait quand même avancer son Église. C'est, je crois, la bonne nouvelle de ce triste récit. Ce triste récit n'a pas arrêté l'œuvre du Seigneur. Comment conclure ? En conclusion, j'aimerais nous appeler à faire confiance à Dieu. Lui faire confiance parce que, comme je l'ai dit, même quand on se plante, même quand on se trompe, son plan avance, l'Église avance. Et ça devrait nous encourager. Non pas être léger et faire n'importe quoi, mais nous encourager quand même. Il est plus grand que nous. Nous servons le Dieu parfait. Que rien n'arrête. Nous encourager, mais nous encourager à quoi ? À faire ce qu'il nous demande. Former, pas trouver une place pour moi-même, pas chercher ma place, mais faire des disciples. Posons-nous la question. À qui est-ce que je peux transmettre ce que je fais ? Non pas pour qu'il soit mon disciple, mais pour qu'il soit disciple du Maître Jésus-Christ. À qui est-ce que je peux transmettre ce que je fais ? Mais il y a une autre question qui est liée à celle-là, c'est aussi, et moi ? Est-ce que je suis prêt à me laisser former ? Est-ce que je veux aller plus loin pour Dieu ? Quand je dis plus loin pour Dieu, ce n'est pas forcément être ministre à plein temps, ministre du culte. Ce n'est pas la seule chose à laquelle Dieu appelle. Dieu nous appelle aussi dans le monde à témoigner au milieu de ses voisins, de ses collègues, dans son travail normal, à le faire bien, à le faire comme pour le Seigneur. Est-ce que je veux aller plus loin pour Dieu ? Apprendre à mieux témoigner, apprendre à mieux servir, à mieux donner, à mieux encourager. Jésus appelle. Suis-moi. Participe à la formation de disciples. Mes amis, recevons cet appel et faisons confiance à celui qui appelle, à Dieu notre Seigneur. Il nous a promis, il est avec nous. Amen.